Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus assister à cette table ronde qui s'appelle Game of Thrones, une nouvelle frontière pour la fantasy. Alors c'est vrai que le titre fait un peu Star Trek Final Frontier. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des auteurs de marque, avec beaucoup de galons sur la fantasy. Donc il y a Anne Besson, vous êtes professeur de littérature générale et comparée à l'université d'Artois. Spécialiste des ensembles romanesques et des constructions de mondes alternatifs, notamment de fantasy, vous êtes l'auteur d'Asimov à Tolkien, cycle et série dans la littérature de genre, CNRS édition, et la fantasy publiée chez Klinsic. Vous avez dirigé également le dictionnaire de la fantasy qu'on a tous plus ou moins lu, même plutôt beaucoup lu, et récemment coordonné les actes du colloque Game of Thrones Actu SF.
C'est eux.
Bonjour. Parmi nous, il y a Nicolas Allard. Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes en classe préparatoire et spécialiste de pop culture. On vous doit des essais littéraires consacrés à des œuvres majeures de science-fiction, comme Dune, qui fait un tabac au cinéma en ce moment, et Star Wars, qui fait toujours un tabac d'une manière ou d'une autre. Votre dernier livre, Les mondes extraordinaires de Jules Verne, consacré au riche héritage culturel de l'écrivain français, vient tout juste de paraître. Vous êtes également l'auteur de l'univers impitoyable de Game of Thrones, une analyse des livres et de la série parue aux éditions Armand Collin. Notre troisième invité, Emmanuel Chastelier, vous êtes cofondateur et rédacteur en chef du site elbaking.net, que l'on connaît tous. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes traducteur et auteur d'ouvrages, notamment La Piste des Cendres chez Critique, et dernièrement Sébastopol, 1922, les éditions L'Homme sans nom. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être là avec nous pour parler de Game of Thrones. Comme on le sait tous dans cette salle, Game of Thrones a été un vrai tsunami qui a déferlé dans le monde en 2019 lors de la dernière saison. Tout le monde parlait de la série, tout le monde l'a regardé en famille, seul, en pub, et tout le monde avait un avis dessus, même ceux qui ne regardaient pas. Sans oublier cet épique dernier épisode qui avait déchaîné les passions. Donc le succès de GOT a concentré toute l'attention de la presse française, c'était sans doute une première, en tout cas à ce point-là, c'était vraiment effarant. Les analyses, les avis, les débats rythmaient les émissions de télé, de radio, remplissaient les colonnes de la presse quotidienne, des hebdos, de la presse spécialisée. Alors, première question, comment expliquer un tel engouement ? Anne ?
C'est une question beaucoup trop large, Victor. Alors, comment expliquer un tel engouement ? Eh bien, donc c'était la fin d'une série qui dont la popularité n'avait cessé de monter. Pour tout un tas de raisons, essentiellement parce que c'était la première grande série de fantasy qui mettait les moyens de ses ambitions. Et donc, d'emblée, tout le monde avait été saisi par la réussite esthétique, l'ampleur du casting, tout ce que ce monde avait à nous dire. La série s'appuyait elle-même sur l'œuvre de George Martin qui, depuis le milieu des années 90, avait elle-même une très grosse communauté de lecteurs. Donc voilà, la série elle-même ne partait pas de nulle part. Et puis, c'est vraiment une série qui a épousé un certain nombre de reconfigurations de nos pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2019, beaucoup de choses se sont transformées dans la manière dont on consomme des produits culturels et notamment des séries. Et Game of Thrones s'est vraiment placé à ce moment-là. La série est devenue quelque chose qu'aujourd'hui fait partie de nos habitudes à tous sur les plateformes de streaming. Alors, ce n'était pas le cas de Game of Thrones qui était chez HBO, mais qui a, été au moment du piratage massif qui a fait la transition entre les deux modèles des chaînes payantes et des plateformes de streaming. Donc, voilà, c'est quelques premiers éléments pour expliquer cet engouement, donc un mélange à la fois de structuration du marché de l'époque, de formidables histoires, et puis de combinaisons entre l'écrit et le visuel qui lui a été donné.
Nicolas ?
Oui, alors moi, je souscris totalement à ce qu'Anne vient déjà de dire. Je pense qu'elle a fait un bon panorama d'ensemble. On peut peut-être ajouter simplement aussi le succès en salle de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui avait peut-être un petit peu préparé le terrain en France et dans une partie du monde pour les œuvres de fantasy, qui a remis certaines œuvres de fantasy sur le devant de la scène. Cet intérêt très fort, effectivement, pour le format aussi de la série, parce qu'il y a eu des séries de grande qualité qui ont un retentissement international dans les années 2000, comme Rome par exemple, comme Lost également, qui avait des moyens quasiment dignes du cinéma. Donc ça a préparé un petit peu le terrain. Puis peut-être pour aborder un point que l'on abordera peut-être plus longuement par la suite, mais c'est aussi une série et une histoire de manière générale que celle du Trône de Fer, qui accorde une importance assez grande aux personnages féminins. Et donc on a pu avoir ici un public également qui s'est diversifié, pas simplement un public purement masculin qui aurait apprécié finalement des scènes de baston, de violence, etc. On a été dans une diversification des thématiques avec effectivement des personnages féminins forts, assez différents les uns des autres, qui je pense ont pu plaire, ont pu intéresser un public qui ne soit pas exclusivement jeune ou masculin.
Manuel.
Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter maintenant? Oui, bah, je rajouterais juste peut-être que, mais c'est valable également pour Le Trône de Fer en roman, c'est que c'est un univers, une série qui entretient aussi pas mal de mystères, de secrets. Enfin, il y a des choses dont on, quand on est fan, on a envie de savoir quel va être le destin de tel personnage, qui sont ses parents, etc. Et du coup, la dernière saison, c'était aussi un peu celle, en tout cas, on espérait des réponses. Donc ça a pu faire augmenter encore l'engouement et l'attente d'un cran.
Et du coup, quels ont été les atouts de ce sabotage médiatique? Parce que justement, tu parlais de restructuration, d'un développement qui allait débouler de ça, ou alors ça commençait à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là exactement?
La fantasy a sans doute encore élargi l'empan du public qu'elle pouvait toucher. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait eu un certain nombre de jalons antérieurs. L'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson et Harry Potter, voilà, c'est vraiment le tournant. Hein, c'est la fin des années 90, le début des années 2000. On est déjà 15 ans après et Game of Thrones va faire redémarrer cette machine qui n'avait pas véritablement faibli, mais qui, disons, voilà, on associait à ce moment-là la fantasy, encore en 2015, on entendait beaucoup que c'était un genre manichéen, que c'était un genre un peu pour enfants, voire un peu nunuche, alors ce qui n'était déjà pas du tout vrai, hein, qui témoignait d'une méconnaissance du genre, mais c'était l'image publique qu'on pouvait en avoir. Effectivement, ça pouvait laisser ressortir cette impression-là. Game of Thrones, c'est vraiment venu bousculer ça, et ça, toute la presse s'en est rendu compte. C'est-à-dire que vraiment... Bon, alors moi, après, j'ai passé mon temps à répondre aux journalistes en leur disant « Alors non, Tolkien, déjà, c'était pas manichéen. En fait, relisez-le, c'était vraiment intéressant. Hein, je vous le conseille. » Mais vraiment, la presse s'est emparée du phénomène Game of Thrones en disant « La fantasy passe à l'âge adulte. La fantasy passe à l'âge adulte et désormais, la fantasy touche tout le monde. Ça n'est plus un genre de niche. » Et de fait, hein, Game of Thrones a beaucoup participé à faire que le genre n'est plus du tout un genre de niche, mais est désormais un genre tout à fait central dans la production des œuvres culturelles grand public. Le nombre de séries de fantasy qui passent sur Netflix ou sur Amazon Prime ou sur Hulu s'est multiplié par 30 depuis la fin de Game of Thrones. C'est absolument faramineux. Donc c'est vraiment, ça fait effectivement entrer la fantasy encore dans une autre ère publique et médiatique.
Quelque chose à ajouter?
Non, pas vraiment. C'est tellement bien répondu.
C'est gentil, mais...
Peut-être un élément, même si là aussi je suis d'accord, c'était une réponse très complète, c'est qu'aussi l'intérêt de la série, c'est qu'elle a finalement permis d'avoir finalement un public assez transgénérationnel. Moi, je trouve que c'est ça qui était assez frappant, c'est de voir à quel point c'était pas simplement s'ouvrir effectivement vers un public plus féminin. Effectivement, tu avais raison de rappeler qu'il pouvait y avoir un certain nombre de clichés qui ont été défaits à ce moment-là, mais de voir également que c'était une série qui passionnait aussi bien les très jeunes jeunes que les plus anciens.
Pas, pas les très jeunes tout de même, Nicolas. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, en dessous de... Oui, il y a effectivement des pré-ados qui la regardaient, mais enfin, oui. Bon, en dessous de 12-13 ans, c'est quand même pas, totalement tout public.
Oui, mais c'est ce que j'entendais par très jeune, si tu veux.
On a des petits-petits. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, pour dire, en fait, peut-être qu'il y a eu cet intérêt-là avec ce battage médiatique, c'est que des gens qui n'avaient pas commencé à regarder la série l'ont prise en cours de route, et des gens parfois qui étaient justement de générations très différentes, des générations qui ne s'étaient pas intéressées initialement à la fantasy, qui ne faisaient pas partie de ces générations Harry Potter ou Seigneur des Anneaux dont tu parlais tout à l'heure.
On a un article, je signale, de Romain Mathieu dans les actes du colloque, hein, qui se consacre, hein, à la réception médiatique de Game of Thrones dans la presse écrite française. Donc, c'est super intéressant, il a un corpus de centaines d'articles, et donc voilà, sur tout ce qu'il appelle la PQF, la presse quotidienne, la PQR, PQR. À presse quotidienne et régionale, merci. Et du coup, ouais, il fait des stats sur comment, en fonction des saisons et sous quel angle la série est abordée.
Donc, en fait, la série a changé la perception générale des gens par rapport à la fantasy.
Ouais, tout à fait. La fantasy, donc, à mon sens, un peu à tort, c'est-à-dire que c'est des choses qui existaient avant, mais le côté sombre, ambigu, politique, compliqué de la fantasy et a désormais sauté aux yeux de tous, hein, grâce à la série, grâce à la manière dont petit à petit un écosystème politique qui déjà semble assez complexe au départ dans la première saison ne cesse encore, hein, de nous réserver surprise après surprise après surprise et de devenir voilà de plus en plus noir au fil des rebondissements. Ça c'est quelque chose que voilà, on a tous les millions de gens qui regardaient Game of Thrones ont pu constater ensemble, et voilà, l'image de la fantasy ne sera plus la même, et c'est désormais très largement quelque chose qui imprègne la production, par exemple d'Emmanuel Chastelier, mais voilà, un côté, une volonté d'explorer le côté sombre de la fantasy.
Oui, après c'est vrai qu'on l'a évoqué aussi. Moi j'avais lu, j'aime beaucoup Martine, mais c'est vrai que quand on a lu, je sais pas, Thomas Covenant ou même Tad Williams, hein, finalement, qui est d'ailleurs une des sources d'inspiration de Martine avec l'Arcane des Épées, il y avait déjà, enfin, on pouvait déjà trouver des univers très sombres en fantasy. Donc évidemment, pour le grand public, une adaptation, ça a l'avantage de toucher un spectre beaucoup plus large, que ce soit qu'on dit entre générations ou même chez les lecteurs. La dimension sombre, effectivement, saute aux yeux avec une telle œuvre. Et à titre personnel, c'est vrai que moi qui aime bien explorer ce genre de sillon, c'est peut-être aussi plus facile à faire passer auprès d'un public qui est déjà préparé, entre guillemets, au fait d'avoir des... faut pas que ça devienne un gimmick de tuer des personnages toutes les 10 pages, mais en tout cas de l'univers où finalement personne n'est à l'abri des coups du sort.
Quelque chose à ajouter ? Donc en fait, la dark fantasy violente, amorale, arrive un peu au devant de la scène avec Game of Thrones, et ça marche a priori. Comment on voit ça comme un signe des temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que effectivement, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Harry Potter, c'est de la fantasy, et ils ont eu un succès. Mais Game of Thrones a vraiment, du coup, le titre Les Frontières au-delà des frontières va très très bien dans ce sens-là. Pourtant, c'est quelque chose c'est une série quand même qui est assez violente, hein, et qui n'explore pas du tout le même monde, en tout cas très différemment des œuvres de Tolkien au cinéma. Comment vous expliquez ça?
Justement, je pense que tu as raison de reparler du mot frontière, parce qu'on peut aller au-delà de la littérature. Et si on évoque la dark fantasy, une des œuvres les plus populaires actuellement, c'est l'Attaque des Titans. Et l'Attaque des Titans relève en partie, pas uniquement, mais de la dark fantasy. Et on a bien cet intérêt-là, effectivement, pour des récits extrêmement sombres, des récits qui, en même temps, nous posent des questions assez fortes sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et sur notre rapport également aux autres et à la politique. Et c'est intéressant de voir que, finalement, là, on est dans un autre type d'art, puisqu'on sort de la littérature pour aller dans le manga, et puis dans une autre sphère culturelle, puisque c'est plus la sphère américaine ou la sphère japonaise, et c'est une œuvre qui marque beaucoup. Et c'est intéressant de voir que finalement, pour les personnes qui ont apprécié Game of Thrones, la série, ou alors Le Trône de Fer, les romans qui voudraient patienter, puisqu'on attend toujours impatiemment le vent de l'hiver, il fallait bien que j'en parle, et bien on a finalement d'autres œuvres qui permettent non pas de prolonger l'expérience, mais de la vivre un peu différemment, comme l'Attaque des Titans, qui là aussi d'ailleurs reprend ce système intéressant de l'œuvre publiée et adaptée, avec parfois l'adaptation qui est plus célèbre, plus appréciée encore que l'œuvre d'origine auprès du grand public en tous les cas.
Oui, Game of Thrones constitue un des exemples d'une espèce d'assombrissement qui a été très frappant, d'assombrissement de l'imaginaire en général. Ça s'est traduit par la dystopie. Enfin voilà, Game of Thrones est une série, la série télévisée arrive après la vague dystopique, et je pense qu'elle s'est sans doute montée aussi grâce à ça. C'est-à-dire que entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, il y a eu Hunger Games, il y a eu la cinquième vague, le labyrinthe, j'en oublie, Divergente. Cet autre moment. 2005-2010, des très gros succès auprès des adolescents notamment, mais succès transgénérationnel. Il y a eu les vampires aussi, mais je passe sur cet épisode. Cet imaginaire dystopique, ces trucs d'avenir très sombres, ça hantait déjà vraiment beaucoup les consciences, et le roman de Martine, qui est antérieur, trouvait vraiment bien à se glisser dans ce moment-là. Alors pourquoi on peut donner des explications sociologiques à la louche. Enfin, c'est sûr que l'avenir n'est pas radieux, hein, mais je pense qu'il ne l'était pas non plus avant, et il ne le sera pas forcément beaucoup après. Je pense aussi que c'est des cycles, hein, c'est des trucs un peu de compensation. Quand on a été un petit peu vers un merveilleux clair, on a envie de le salir. Et puis là, on a tous perçu qu'il y avait aussi un petit ras-le-bol de la dark fantasy très dark, hein, ce qu'on appelle la grim dark. Hein, grim, ça veut dire sinistre, et dark, ça veut dire sombre. Donc le tout est un peu pesant, qui s'est beaucoup fait autour de Game of Thrones et dans cette lignée. Et au contraire, qu'il y a des tentatives aujourd'hui de faire des choses comme le solar punk ou de retour à l'utopie. Enfin, donc c'est des grands mouvements de balancier où on n'a pas envie d'aller uniquement dans une direction, et on n'a pas forcément non plus toujours envie de lire ou de voir des trucs atroces. Mais Game of Thrones, ce n'est pas complètement non plus, hein, ça, il faut insister là-dessus. Game of Thrones finit bien, alors on va peut-être en parler, hein, mais dans le sens d'un happy ending très relatif. Et puis Game of Thrones propose plein d'options possibles aussi. C'est pas du tout quelque chose qui est fermé, qui est monolithique dans la désespérance. C'est beaucoup plus riche que ça. Et puis, ça nous permet d'échapper aux horreurs de notre monde en faisant quand même un pas de côté pour regarder celle qui, au moins, ne nous concerne pas directement. Voilà.
Donc, vraiment, pour vous, c'est vraiment une question de cycle. Et finalement, Game of Thrones n'est pas totalement en rupture avec ce qui s'est passé avant et ce qui viendra derrière.
Oui, tout à fait. Quelque chose à ajouter. Moi, j'avais envie de parler de The Witcher après. Hein. Je pense que le successeur direct de Game of Thrones, c'est cette série-là, c'est cette adaptation-là, donc voilà, qui vraiment prolonge le. je vois
des
que.
Amateurs.
Qu'il y a des amateurs.
Par rapport au bouleversement qu'il y a pu y avoir avec Game of Thrones et donc ses frontières, on a vu quelque chose de très net, c'est que Game of Thrones a contribué, a priori, alors c'est une question ouverte, au rapprochement entre les communautés de fans, dont on a certains ici, et les universitaires.
Bah oui, alors donc, je monopolise complètement la parole, les gars. Donc, non, alors les communautés de fans et. Je sais pas, peut-être et le reste.
Et le reste. Hein,
et le reste. Voilà. Donc oui, tout à fait sur le cas de Game of Thrones, sur le cas français et sur le cas de ces actes de colloque, puisque donc la garde de nuit ici présente en nombre a participé au volume hein, avec deux de ses membres, Thierry Soulard et Aurélie Paty qui sont là, voilà, et qui signent des articles sur l'orientalisme et sur les prophéties. Donc voilà, ça c'est une trace vraiment très directe de cette collaboration. L'expertise des fans, elle est reconnue désormais, enfin voilà, depuis un bon moment, en particulier dans les milieux de l'imaginaire, en particulier quand il s'agit d'univers très riches qui se sont déroulés sur de longues périodes, parce que bah, ça fédère justement ces communautés générationnelles, ça fait qu'il y a des gens qui sur le long terme s'y intéressent, qu'ils ont matière à creuser. C'est-à-dire que voilà, le temps passe et néanmoins ça continue à être hyper intéressant pour eux parce qu'il se passe tout le temps des choses et parce que voilà, l'univers de départ est hyper riche et puis il se passe tout le temps des choses. C'est vrai pour Harry Potter, c'est vrai pour Game of Thrones. Et puis dans le cas de Game of Thrones, il se trouve que George Martin il a très, très, très étroitement associé ses fans à sa propre production ces dernières années avec notamment donc, Linda Antonsson et Aidez-moi la garde de nuit. Et Elio Garcia, qui voilà, ont très directement participé à l'écriture de World of Ice and Fire. Enfin, voilà, il s'appuie lui-même sur l'expertise reconnue de ses fans, qui voilà, parfois connaissent mieux que lui ce qu'il peut y avoir à dire sur ce monde. Lui, voilà, il fait d'autres trucs, il perd un peu la... il oublie certaines choses. Et ben, voilà, eux sont là comme les gardiens du temps, comme mémoire de son univers pour l'aider à pouvoir...
C'est quand même incroyable quand on y pense.
Ouais, complètement.
Qu'un auteur soit comme ça épaulé par sa fan base, c'est à ce stade-là, ça s'est jamais vu.
Écoute, j'ai déjà donc aux Imaginales entendu des autrices américaines dire que voilà, ça leur était déjà arrivé de faire appel au forum de fans pour dire est-ce que j'ai vaguement souvenir qu'il y avait eu telle chose, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Donc voilà, ça c'est. Ah ouais, non. Puis voilà, pour nous les universitaires, pour avoir cette base de données de connaissances, c'est hyper utile, voilà, pour travailler sur tout savoir qui a été produit, quoi.
Non, comme autre auteur aussi qui a beaucoup échangé avec ses fans, je pensais peut-être à Robert Jordan pour La Roue du Temps, qui là aussi avant même, enfin l'adaptation arrive cette année après. Beaucoup d'obstacles, mais c'était déjà, je me rappelle, il y a 15 ou 20 ans, c'était déjà des communautés qui s'organisaient pour discuter théories sur voilà, comment va se finir le cycle, alors qu'il restait 3, 4, 5 tomes. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas forcément nouveau, mais qui a peut-être atteint une ampleur inédite avec Game of Thrones.
Et pour compléter ça, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, et là on peut rendre hommage à la garde de nuit ici présente, c'est qu'il y a justement en France, avec ce site qui est particulièrement bien fait, des travaux qui sont quasiment des travaux de recherche, enfin même on peut les qualifier parfois comme tels, parce qu'il y a beaucoup de théories très intéressantes qui sont développées avec des textes écrits, des échanges qui sont également proposés dans le cadre par exemple d'un podcast. Donc ce qui est intéressant, c'est que les fans même d'un univers se nous en quelque sorte en chercheurs, ce qui est un phénomène qu'on peut trouver avec d'autres univers, mais là c'est parfois mis en écrit, mis en parole dans le cadre d'un podcast, et c'est assez fascinant. Et comme tu disais également que ça avait rapproché peut-être des femmes d'un milieu universitaire, on peut également avoir en tête le fait que Game of Thrones a donné lieu à un très grand nombre d'essais, que ce soit des essais philosophiques, mais pas uniquement. Et par exemple, Marianne Chaillon, qui a été l'une des premières à consacrer un essai à Game of Thrones, alors seulement la série, il ne s'agissait pas pour elle de parler des romans, c'était un essai de pop philosophie, et bien il s'est extrêmement bien vendu, beaucoup plus que ses autres œuvres, ce qui prouve quand même que Game of Thrones a aussi un ADN qui invite finalement ces femmes, ou ceux qui s'intéressent en tous les cas à cet univers-là, à vouloir aller plus loin. Et on pourrait citer tous les autres essais qui ont été publiés depuis, celui de Thierry Soulard, Aurélie Pacci, Justine Breton, des textes de grande qualité et qui continuent même alors que la série n'est plus dans l'actualité brûlante de susciter l'intérêt.
Et ces travaux, alors là, merci Nicolas, tu as vraiment cité toute la production française, mais alors il y a eu des choses aussi en biologie, en climatologie, en sciences sociales, en sciences politiques, en démographie. Enfin voilà, ça a intéressé des chercheurs vraiment de tous les horizons, des sciences dures, des sciences sociales.
Ça, c'est nouveau, ça.
Oui, ça c'est effectivement, il y a eu, je pense, une espèce d'effet d'émulation, de est-ce que moi aussi je peux relever le défi d'appliquer ma discipline scientifique au monde de Westeros, et oui ça marche, donc est-ce qu'on peut faire l'économie de Westeros, est-ce qu'on a assez d'éléments pour faire ça, et effectivement cette voilà de la recherche appliquée sur les mondes imaginaires, mais n'en est peut-être qu'à ses commencements, parce que c'est quelque chose d'assez fascinant.
C'est ce que j'allais dire, du coup ça relance un écosystème, c'est-à-dire que ce qui a été fait pour Game of Thrones peut être fait sur sur toutes les grandes œuvres, en tout cas une partie des grandes œuvres, et qu'on se retrouve avec la prochaine adaptation au cinéma, vous parlez de Jordan, mais ça peut être autre chose, avec des appareils critiques qui vont dans le sens, bon je parle de l'histoire parce que c'est, mais ça peut être d'histoire, de géo, de sociaux et tout ça. Mmh. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui, ça ouvre les portes quand même, là on est vraiment, on dépasse les frontières d'une façon assez... assez flagrante.
Oui, tout à fait.
On l'avait vu un tout petit peu avec Star Wars auparavant, mais c'était beaucoup plus diffus. Et puis là, tu as raison quand tu dis que ça pourrait inspirer. On le voit un petit peu avec Dune. Pour Dune, par exemple, il y a eu la publication du Belial, qui est une publication dans laquelle on aborde l'œuvre pas du tout d'un point de vue littéraire, pas du tout d'un point de vue cinématographique, mais d'un point de vue purement scientifique. Et donc, c'est intéressant de voir ce que Game of Thrones peut inspirer par la suite.
Oui, moi je suis tombée sur un Tolkien et la science là, on peut effectivement repousser les frontières des axes d'études d'un monde imaginaire, et effectivement c'est autour de Game of Thrones, de cette espèce de succès énorme qui a donné envie qui ça a permis par exemple à des travaux de climatologues de se faire connaître, c'est ça aussi, enfin il y a aussi un écosystème propre à la recherche qui fait que à certains moments, pas à tous, on a besoin d'un coup de projecteur et on a besoin d'un coup de financement, et à ce moment-là ça peut passer par le choix de mettre en avant un article comme ça, comme celui sur les climats de Game of Thrones qui a été énormément lu, et ça fait monter le quotient de citation de l'auteur et du labo de manière exponentielle, et donc après ils vont pouvoir vivre des années avec de tels résultats. On a une question. Et ben voilà, on l'attendait.
Oui, non, moi j'allais juste dire que depuis que j'ai vu que cette semaine, j'ai vu qu'arriver en librairie un ouvrage de recettes basé sur Lovecraft. Donc, après, tout est possible à partir de là.
Reste pulpe, essentiellement. Ouais, c'est...
Justement, sur cette relation entre Game of Thrones et les fans, parlons de la fin de cette saison 8. Elle a été vivement critiquée, ça on le sait bien, au point que les fans exigeaient la réalisation d'une fin alternative, et j'en passe. Ces réactions, que racontent-elles ?
Moi, je pense qu'elles racontent avant tout l'attachement justement du spectateur pour l'univers et puis pour cette histoire. C'est forcément, après, quand on... l'attachement et les attentes qui ont augmenté aussi au fil des saisons, j'imagine, en plus avec les incertitudes autour des livres, voilà, c'est forcément, on s'imagine des tas de choses, et plus on s'imagine quelque chose de grandiose, et plus on est déçu. Donc, je pense qu'avant tout, pour moi, c'est de l'attachement déçu, une déception. Peut-être pas amoureuse, mais enfin une déception en tout cas par rapport à...
Affective,
ouais. Oui, voilà, affective. Par rapport à un univers qu'on a appris à justement à apprécier au fil des ans, un rendez-vous qui était devenu vraiment régulier, et voilà.
Et comment vous l'avez vécu, cette fois?
Moi moi, ça allait, j'ai survécu, mais...
Non, mais j'avais... Vous avez pensé quoi? Quand vous avez dit que ça s'est terminé, fin.
Honnêtement, moi je pensais qu'il y avait des choses qui allaient beaucoup trop vite. Mais après, dans les grandes lignes, j'ai pas été vraiment déçu. Enfin, je m'attendais à peu près à ce genre de fin. Maintenant, bon, j'aurais aimé quelques épisodes de plus pour que ça passe, pour que les choses soient mieux amenées, on va dire. Mais j'ai pas.
Donc pour vous, c'était bâclé, point.
Oui, enfin, c'était bâclé dans une certaine mesure. Ça restait souvent bien au-dessus de certaines productions, mais je veux dire, voilà, c'était pas à la hauteur, on va dire, de la saison, je sais pas, 4. Voilà, donc, c'était une déception, mais j'ai pas éprouvé par exemple d'amertume. Quoi. Je me dis, dommage, mais voilà.
Nicolas ?
Non. C'est vrai que moi, au début, j'étais un petit peu déçu, mais en fait, en y réfléchissant a posteriori, c'était la fin douce amère finalement qui était annoncée. C'est-à-dire que fondamentalement, ça ne heurtait pas non plus les attentes que l'on pouvait avoir. Et par ailleurs, la série nous avait aussi habitués par moments à nous surprendre, à aller contre la destinée qu'on aurait souhaité pour tel ou tel personnage. Donc, de ce point de vue-là, je ne trouvais pas que c'était nécessairement aller à l'encontre de ce qu'était la série. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que là, c'est une fin qui est proposée, mais ce n'est pas nécessairement la fin. Ça dépend du point de vue que l'on a, si l'on est plutôt pro-série ou pro-roman. Et dans ce cas-là, bon, certes, on est toujours en attente du dénouement romanesque, mais on peut aussi tout à fait envisager que cette fin sera différente par un certain nombre d'aspects, et il y a plusieurs raisons qui permettent de le penser. Et puis je crois par ailleurs que ce dénouement effectivement était trop rapide, ça j'y souscris, mais en même temps ça a été un dénouement qui a privilégié un grand spectacle, et même si ça peut être critiquable en soi, la série a monté ici, s'est élevée au niveau du cinéma, mais de manière assez spectaculaire. Je pense notamment au troisième épisode avec l'attaque de Winterfell, ou alors lorsque Daenerys décide de mettre feu à Port-Réal. C'est quand même des moments, je pense, qu'ils vont marquer sur le long terme. On pourra ne pas les aimer, mais ils vont marquer visuellement et émotionnellement sur le long terme un certain nombre de spectateurs. Et pour terminer sur Daenerys, je trouve que son revirement a été amené peut-être trop brutalement, mais en soi, l'idée est assez belle et assez intéressante, et justement, on peut simplement peut-être regretter le fait qu'elle n'ait pas été mieux exploitée.
Anne ? Oui, je vais tout à fait rejoindre mes camarades. Je pense que l'espèce de polémique et de moment immédiat suite à la fin, c'est une réaction de dépit, c'est une réaction de deuil, et c'est une réaction qui, elle aussi, est caractéristique de notre époque et du nouveau pouvoir qui a été donné au public. Voilà, puisqu'on parle de l'importance qu'ils ont pris, mais ça va avec un certain nombre d'attentes qui sont en mesure d'exprimer et éventuellement d'exprimer fort. Et donc, la fin des séries devient désormais effectivement un moment vraiment très compliqué à négocier pour les producteurs et les créateurs. Parce que forcément, l'ouverture est mieux et plus porteuse que la clôture. Enfin voilà, n'importe quelle fin, elle signifie que beaucoup de choses qu'on avait espérées, qu'on avait rêvées, qu'on avait imaginées n'auront pas lieu, quelle que soit la fin. Et donc voilà, c'est la fin en elle-même qui refusait, parce que on vit dans une époque où on valorise beaucoup l'ouverture des possibles. Donc je j'explique comme ça ces réactions très outrées qui ont été enregistrées, parce que effectivement les gens ont eu l'impression que ça n'était pas conforme à leurs attentes, que ce n'était pas ça la série. Alors que de fait, je vous rejoins tout à fait, la série, Game of Thrones nous dit toujours ça, à chaque fois nous dit, vous croyez que c'est un conte de fées ? Ben non. Et donc voilà, la jolie princesse aux cheveux argentés, c'est elle qui va finir par monter sur le trône et elle sera juste et bonne ? Ben vraiment pas, quoi. Donc on ne pouvait pas attendre autre chose pour l'arc narratif de Daenerys. Alors effectivement, bon, peut-être un peu bâclé. Pourtant, ils ont eu le temps. Hein, je suis pas sûr que ce soit une question de temps. C'est sans doute faute d'un canevas narratif qui avait été posé par Martin et qui voilà leur fait cruellement défaut, parce que voilà, lui, il est vraiment capable de faire une écriture qui est super fine et qui nous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un personnage, et donc ça leur est certainement permis d'amener ça plus facilement. Mais oui, pour moi, c'était pas non plus une mauvaise surprise particulièrement. Bon, Bran comme roi, c'est vrai que...
C'est spécial, quand même.
Mais bon... c'est intéressant, parce que c'est le personnage qui, en général, il est plutôt dans le rôle du mage. Enfin, voilà, ce type de personnage de fantasy, c'est plutôt le mage mystérieux, etc. Et alors, vraiment, c'est vrai que le mettre dans la position du roi... Alors après, il faudrait continuer pour voir ce que ça donne, parce que c'est très... Là, pour le coup, très contre-canonique, quoi. C'est vraiment... On se dit, mais... Pourquoi ? D'où ça peut venir et qu'est-ce que ça peut produire ? Voilà, continuons Game of Thrones pour la suite, pour la saison sur le règne de Bran.
Du coup, Game of Thrones soulève un certain nombre de problématiques, a cassé un certain nombre de codes. Par exemple, parlons de la représentation de la femme. Qu'est-ce qu'on aurait à dire d'intéressant, parce que vous parliez tout à l'heure de... Non, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, bah, la princesse, etc., la femme forte aussi également. Où se cale, en fait, Game of Thrones par rapport à toutes ces représentations ?
Moi, je trouvais, au début, en tout cas, l'intérêt de l'œuvre de Martin et de la série, c'est de multiplier les modèles féminins. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement riche en types de personnages. Alors, ils sont tous assez typiques, en tout cas au départ. C'est-à-dire que voilà, ils rentrent plus ou moins dans des cases. Arya, voilà, la jeune fille, voilà, qu'on appelle plus garçon manqué, mais voilà, qui veut pas de son sort de princesse, versus Sansa qui elle a des rêves romantiques. Enfin, voilà, il y a tout un tas de types, mais il y en a plein. Et donc ça multiplie nos capacités d'identification. Ça nous permet de ne pas rester coincés dans un archétype ou un autre, et de les voir tous fonctionner en interaction. Après, ce qui a posé problème pour la réception de la série, c'est la représentation des violences faites aux femmes. Donc c'est une autre question sur laquelle la série a été amenée à beaucoup évoluer au fil de sa diffusion, parce qu'il se trouve qu'elle s'est qu'elle a été complètement simultanée avec le mouvement MeToo et qu'elle a dû, là encore, prendre en compte les réactions de son public quasiment au présent, quoi. Vraiment évoluer en même temps que les réactions toujours forte et toujours très présente d'un public toujours très nombreux lui revenait et c'est aussi pour ça un exemple très intéressant de la manière dont les créateurs évoluent désormais en synergie avec les consommateurs.
Sur l'écriture des personnages féminins, je suis d'accord effectivement avec toi sur leur extrême diversité. Ça, je trouve que c'est très très intéressant. Parfois, en plus, on a une même thématique mais qui va être traitée différemment. Par exemple, il y a une thématique importante, notamment au début, que ce soit de la série ou des tomes, c'est la thématique de la maternité avec Catelyn Stark ou alors Cersei. Mais c'est complètement différent en fait dans les deux cas de figure, et ça donne lieu effectivement à des contrastes qui montrent que Martin n'aborde pas les les choses de manière caricaturale ou de manière absolument figée. Et puis aussi, ce qui est intéressant pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que les personnages sont assez évolutifs quand même dans cet univers-là. Ils sont confrontés tous à des épreuves, alors qu'ils peuvent être de nature très très différente. Les épreuves peuvent être physiques, peuvent être spirituelles, etc. Et ça les fait beaucoup évoluer. Je trouve que Sansa, justement, est un personnage très intéressant de ce point de vue-là. Et ce qui nous montre que George Martin ne cherche pas justement à figer finalement une situation des personnages. On pourrait également rappeler, moi j'en avais parlé dans mon essai, George Martin accorde une certaine importance aux femmes aussi, là on le voit, c'est dans le fait que les personnages chapitres, les personnages point de vue sont assez souvent des personnages féminins. C'est pas simplement des personnages forts mais qui apparaîtraient dans le point de vue des personnages masculins, ce sont parfois des personnages point de vue, et ça je trouve que c'est quand même assez remarquable et ça mérite d'être souligné.
Oui, non, mais d'un point de vue technique entre guillemets, ben voilà, c'est vrai que je suis d'accord. L'avantage d'une série au long cours, c'est que ça permet plus facilement de gérer l'évolution des personnages, et l'avantage d'avoir justement des dizaines et des dizaines de protagonistes différents, c'est qu'on peut aborder plein de figures, que ce soit féminine, masculine, mais dans toute leur variété. Donc, c'est une réussite.
Oui, et ça, c'est le côté choral de la série, qui est aussi du roman, et que la série a réussi à assez bien gérer. Alors, tous ces personnages, cette ampleur du casting, ça faisait partie des facteurs de succès dont on parlait tout au début.
Alors, j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder qu'on n'a pas... Pas plus que ça.
Moi, j'en aurais un éventuellement. Game of Thrones, en fait, maintenant, c'est effectivement à l'origine une œuvre littéraire, puis c'est la série, et maintenant, c'est aussi devenu vraiment un monument assez important de la pop culture. Il y a eu un grand succès des produits dérivés Game of Thrones en parallèle de la série. On va avoir le spin-off qui va sortir normalement en 2022, dont le trailer a été diffusé il y a peu de temps. Donc, va se poser la question de savoir si Game of Thrones peut imposer un univers étendu qui va avoir un succès large, aussi large que la série Game of Thrones, ou alors est-ce que ça va redevenir finalement plutôt pour un public de niche. Et je trouve que j'ai pas la réponse à cette question-là, mais j'attends avec une certaine impatience justement cette série et la manière dont elle va être perçue aussi bien par les médias que le grand public, d'autant que l'année prochaine on a également la série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux. Alors est-ce qu'elles vont être concurrentes, est-ce qu'elles vont au contraire s'apporter mutuellement? Voilà, là ce serait pas véritablement une affirmation de ma part, mais plus une série de questions sur le devenir de Game of Thrones en tant que monument de la pop culture. Est-ce que ce sera un monument qui peu à peu va finalement garder son socle très solide, mais rester finalement dans un socle un peu de niche, ou est-ce qu'il va réussir à maintenir finalement une audience aussi large que la série Game of Thrones a pu l'avoir?
Et la roue du temps aussi, hein, la roue du temps, ça sort quand? C'est maintenant, c'est... Novembre. Donc en fait, il va y avoir effectivement maintenant, il y a beaucoup de séries de fantasy. Et donc est-ce que peut-être Game of Thrones va garder son rôle de moteur, de leadership d'un mouvement de diffusion toujours plus large de la fantasy? Parce que c'est vraiment ça pour l'instant qu'on voit. Ça a servi à ça. Est-ce que Game of Thrones peut être Star Wars? Parce que c'est un peu ça la question que tu poses. Alors c'est vrai qu'ils ont prévu plein de spin-off possibles qu'ils mettront, j'imagine, en production en fonction du résultat des précédents. Est-ce que c'est aussi quelque chose de souhaitable? Est-ce que le malheureux George Martin, écrasé par le poids de tout cela, va réussir à sortir la tête de l'eau? Autant de questions dont on attend effectivement la réponse avec impatience.
Je pense que ce qui est aussi justement sous-tend la question, c'est comme avec toutes les communautés de fans, c'est justement est-ce que la série, enfin, ou les livres arriveront à entraîner un renouvellement de lecteurs, de nouveaux lecteurs ou lectrices qui s'intéresseront justement, enfin qui découvriront la série, mais au long cours, genre est-ce que dans 20 ans, 30 ans, ce sera encore le cas? Bon, bah là, du coup, on n'aura pas la réponse tout de suite. Mais...
Et est-ce que vous pensez que le succès de Game of Thrones, donc au cinéma, bon, ça a certainement ça a incité les gens à lire
à la télé.
Ça, oui, à la télé. Ça a incité les gens à lire Martin. Mais est-ce que ça a incité un public à lire de la fantasy? C'est ça la question aussi.
Je pense que c'est assez mitigé, mais on a déjà vu ça en fait à chaque grand succès qui dépasse un peu, soit qu'il soit sujet à adaptation, soit qui commence à avoir vraiment dépassé le plafond de verre, on va dire des, allez, on va être généreux, 3000 lecteurs en grand format. Mais du coup, c'est vrai que je pense que j'ai déjà vu ça, par exemple, avec, je sais pas, Pratchett, qui a pas eu vraiment... Enfin, s'il y a eu des adaptations, mais c'est pas la même chose. Mais j'ai connu des gens qui disaient que du Pratchett, mais qui ne seraient pas allés lire autre chose en fantasy. Pareil avec L'épée de la vérité. Et, non, désolé, mais c'est bon, voilà.
Il y en a.
Des gens qui disaient que ça, mais pas forcément... Voilà, ça leur suffisait et ils n'allaient pas chercher à côté ou ailleurs autre chose dans le même rayon.
C'est le problème de l'arbre qui cache la forêt. Hein. Il y a eu beaucoup ça avec Tolkien. Et là encore, Martin, à la fois, a mis un coup de projecteur sur le genre de la fantasy, mais a beaucoup concentré les ventes. C'est-à-dire que, voilà, lui a beaucoup vendu et il n'y a pas eu énormément de ruissellement. Hein. Le ruissellement, ça ne marche pas. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Il nous reste encore un peu une dizaine de minutes.
On ne sait pas si vous jouez avec votre bague aussi. Hein, oh là là, attention.
Oui.
Non, c'est une très bonne question et merci d'avoir posé. Ben, c'est effectivement, c'est pas, on peut considérer que ça suffit dans ces cas-là. Il y a un exemple justement. Je vais reprendre l'actualité culturelle récente, mais Dune en est un exemple parce que Dune, finalement, il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation, celle de Jodorowsky qui n'a pas abouti. Il y a eu l'adaptation de Lynch qui n'a pas rencontré un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ensuite, il y a eu une longue traversée du désert avec, au début des années 2000, des adaptations télévisuelles qui n'ont pas eu un grand succès. Il y a simplement eu finalement comme adaptation assez réussie les jeux vidéo dans les années 90. Mais malgré tout, l'œuvre a continué à être considérée comme marquante, essentielle, importante, au point qu'elle a inspiré finalement beaucoup d'autres œuvres de science-fiction ou de space fantasy dans cet univers-là, ou de planète opéra. Donc c'est la preuve qu'une œuvre, quand elle est très importante, quand elle est considérée comme majeure dans son genre, elle n'a pas nécessairement besoin de s'appuyer sur un vaste univers étendu. Et peut-être, si on veut également poursuivre dans la critique de l'univers étendu, prenons ce qui arrive à Star Wars en ce moment. Je ne suis pas sûr que ce qui lui arrive soit le plus souhaitable, parce qu'avec cette volonté de produire énormément de films, de séries ou de romans, de bandes dessinées autour de cet univers-là, il y a un phénomène de lassitude qui commence à apparaître auprès du fandom, voire un rejet de certains fans. Et on voit bien d'ailleurs les derniers films n'ont pas suscité une adhésion aussi forte qu'au moment où Le Réveil de la Force était sorti au cinéma. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais en tous les cas, je ne suis pas sûr effectivement qu'une œuvre soit dépendante pour sa survie d'avoir un univers étendu qui soit extrêmement vaste et extrêmement bien constitué.
Je suis d'accord, elle n'en dépend pas. Maintenant, c'est vrai que la tendance de l'industrie culturelle et à une exploitation transmédiatique qui permet à la fois des économies d'échelle et puis de toucher des publics différents. Donc c'est pas c'est pas du tout une condition sine qua non de pérennité. C'est plutôt que aujourd'hui une œuvre qui marche très fort et qui marche très fort sous deux formes, il y a très peu de chances qu'elle se retrouve pas aussi sous huit autres formes, parce que tout simplement on a acheté les droits, on peut très facilement les transférer dans un certain nombre de goodies. Donc je sais pas encore ce que ça donnera pour le film Dune. Moi j'avais déjà le masque des Atreides, hein, tu vois, donc on les trouve et donc voilà, il est très probable qu'il y aura ce type de déclinaison, parce qu'il y a un public pour ça et que donc on va et la déclinaison ludique, elle est aussi souvent très intéressante, voilà, pour sortir du pur commercial du produit dérivé, même si je trouve que les produits dérivés c'est aussi quelque chose de très intéressant pour se saisir d'une œuvre dans notre quotidien, pour marquer notre attachement, etc. C'est quelque chose qui me semble important aussi dans la manière dont on se rapproche aujourd'hui des œuvres qu'on aime.
Pardon, juste pour compléter ce que tu disais, pour aller dans ton sens, effectivement, pour Dune, donc il y a un jeu de rôle qui vient de sortir. Je n'avais pas le masque Atreides, donc j'espère te voir la prochaine fois, ou peut-être dans les rues d'Épinal, l'arborer fièrement. Et puis ils ont prévu également des jeux vidéo pour en univers étendu, et également une série télévisée sur les Bene Gesserit. Donc effectivement, ils veulent exploiter le filon.
Oui, bah, tout ça, c'est vrai que c'est un prolongement qui permet de continuer d'apprécier, de rêver dans cet univers qu'on a justement, qui fait partie de ceux qui ont marqué. Donc c'est vrai que c'est ça l'avantage du multi-support. Bah, pour Dune, il y a aussi un très bon jeu de plateau. Ça permet de rester un peu plus longtemps immergé dans cet autre univers.
Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Au fond ?
La quoi ?
Est-ce que vous pouvez parler un poil plus fort, s'il vous plaît ?
La dernière fois que j'ai vu les gardes des étoiles, le premier, j'avais 10 ans, et que ça a été un vrai choc. Et j'ai vu tous les épisodes de la guerre des étoiles. Et c'est vrai qu'on est déçu par rapport, des films qui m'ont marqué récemment, c'est plus le cinquième élément, par exemple, ou Game of Thrones. Il faut des chocs, c'est des films chocs, c'est comme film, c'est hyper vieux. Je veux dire, j'en ai 56.
Et vous avez vu le nouveau ?
J'ai pas été le voir parce que des amis ont été le voir et étaient très déçus.
Ah bon, non.
Ah, mais il faut y aller.
Oui, une chance, ouais. Oui, c'est quand même assez frappant. Hein. Bon, c'est vrai que...
Une autre question.
Il faut régulièrement un nouveau choc, effectivement, pour réveiller l'intérêt public. Mais ça a toujours été le cas, en fait. Hein. Oui. Et alors, pour moi, il n'y a absolument pas de frontière entre l'œuvre d'art et le produit de consommation. Enfin, vous en connaissez des auteurs qui écrivent pour ne pas être consommé ? Bon, bah voilà.
Moi, je n'ai pas trop entendu. Enfin, par le fait qu'à la fin de la série, il y a une foule qui a été déçue. Mmh. Ce n'est pas dans tous les domaines artistiques qu'on peut être déçu.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de foule, en fait. Oui. Ouais, non, là, il y avait énormément de gens et puis qu'ils étaient extrêmement audibles. Ils pouvaient se faire entendre, alors que je pense que il peut y avoir des milliers de fans d'Emmanuel et ils vont pas le prendre d'assaut pour lui dire que ça va pas telle nouvelle de 1922. Ils peuvent, hein. Non. Bon, c'est un effet de masse, quoi.
En tout cas, merci beaucoup à nos trois invités. Merci à vous tous pour cette table, d'avoir assisté à cette table ronde et à très bientôt.
Et vous pouvez acheter les